richesse, le PIB, disons, de certains pays. Donc, c'est vraiment un enjeu tout à fait. Pour qu'on comprenne à quel point c'est un enjeu décisif.
Ouais. Donc, le budget de l'Union autour de 1% de gross national income, revenu national. Ça, parfois, je cherche un peu les mots. Ok. 1% de gross national income. Le budget de la politique de cohésion pour les 7 ans de 2014 à 2020, c'est 350 milliards d'euros, donc 50 milliards par an. C'est à peu près un tiers du budget de l'Union. C'est la même taille que la PAC, la politique agricole commune. Pour certains pays et régions, c'est une source d'investissement hyper importante. Surtout pour les régions moins développées, ça peut aller jusqu'à 3% de leur PIB par an. Donc ça, c'est vraiment un flux très très important. Et donc, dans des pays comme la Slovaquie, ou la Hongrie, Bulgarie, Pologne, souvent nos investissements dans nos fonds représentent le moitié, presque la totalité de l'investissement public qui est fait dans ce pays. Donc, sans la politique de cohésion, les investissements, surtout dans les régions pauvres, seront beaucoup plus faibles. En France, je ne sais pas le montant par cœur, mais ça va être clairement beaucoup plus faible, car d'un côté, leur PIB est beaucoup plus élevé, et de l'autre côté, notre investissement dans les régions avec un PIB plus élevé sont beaucoup plus faibles.
Merci. Question.
Moi, je trouve ça intéressant, la carte, parce que vous voyez, pour la Hongrie et la Bulgarie, ils étaient en fort déficit démographique, et qu'en parallèle, au niveau économique, ça avait l'air d'être plutôt en développement. Et du coup, ça m'interrogeait sur leur politique migratoire hyper anti-étranger, parce que vraiment l'opposé de ce qu'a fait l'Allemagne, qui a aussi un problème énorme de gens travailler, et qui au contraire a cherché à un peu compenser ce manque-là. Donc enfin, on a l'impression que c'est une idéologie, mais qui va les... Enfin, qui, à court terme, j'imagine, va être un problème énorme, à moins qu'ils compensent en essayant d'attirer des gens d'union vers eux, je ne sais pas trop. En tout cas, c'était assez marquant.
C'est une bonne question, comment résoudre la différence entre la croissance économique, la tendance démographique, et trouver un bon équilibre au niveau politique là-dessus. Quelque chose à souligner pour des pays comme l'Hongrie et Slovaquie, c'est oui, la croissance économique est élevée, il devient plus productif au niveau de l'activité économique, s'augmente, mais pas forcément le nombre d'emplois. Donc c'est une croissance qui ne produit pas énormément d'emplois dans ces pays. Donc c'est aussi une des raisons pourquoi encore énormément des gens partent de ces pays. Est-ce que la migration peut résoudre cela? J'ai montré les chiffres taux de chômage des personnes qui sont nées en dehors de l'Union. Ce n'est pas toujours très facile ou évident de l'intégrer économiquement. Il y en a beaucoup de pays avec des décennies d'expérience et malheureusement pas forcément toujours de bonnes expériences avec cela. Néanmoins, à un certain moment, ces problèmes vont devenir plus importants. Même pour un pays qui a une croissance démographique comme le Royaume-Uni, déjà maintenant, il y a de moins en moins de gens de l'Union qui sont prêts à aller travailler au Royaume-Uni, car ce n'est pas clair s'ils peuvent y rester. Et déjà, surtout dans le service de santé, ils commencent déjà à sentir ce manque d'intérêt et leur difficulté à remplir le poste. De toute façon, il y a plein de tendances contradictoires sur ce domaine-là. On a une tendance à une réduction de la croissance naturelle qui est vraiment long terme difficile à changer. Il y a aussi une tendance à une augmentation de l'espérance de vie, donc plus de personnes qui vont avoir plus de 65 ans. D'autre côté, on a aussi une espèce d'automatisation qui facilite de produire plus avec moins de gens. Mais tous les services à des personnes, c'est difficile à l'automatiser. Donc, il va y avoir des problèmes et des tensions comment le résoudre, ce n'est pas tout à fait clair. Le fait reste que même avec une migration élevée, ça ne va pas forcément changer énormément. La structure d'âge, la croissance naturelle faible, voire négative, a un effet tellement important que même avec une migration élevée, on ne le changera pas complètement. Donc c'est vraiment à nous de trouver une façon de vivre avec une population qui a un âge, une structure d'âge complètement différente que maintenant, et aussi avec une population qui va continuer à se diminuer.
Un peu provocatrice, vous avez fait là le point sur des disparités spatiales très importantes. Donc il y a l'effet capital, l'effet métropolisation. Et donc, comme il y a un tiers du budget européen qui est pour la politique de cohésion et puis un tiers pour la politique agricole commune, est-ce que l'Europe s'est donné comme objectif de transfert social et spatial vers des zones qui, pratiquement pour tout le monde, ne peuvent pas avoir de développement économique? C'est pour ça que je caricature un petit peu.
Bon, c'est une question.
Voilà, ouais, c'est fou.
Oui, vous disiez que pour la France, c'était moins important que pour d'autres pays. Cependant, je crois que ça représente 28 milliards d'euros sur la période 2014-2020. Si on additionne le FESI, le FEDER, le FSE, FEDER, etc., etc., enfin les fonds structurels. Et d'ailleurs, l'association des maires de France s'est inquiétée ces derniers jours d'abord du retard pris sur le programme 2014-2020, qui peut s'expliquer notamment avec le Brexit, mais aussi nourrit beaucoup d'inquiétudes pour après 2020. Et quel est le calendrier de décision de la Commission et à quel niveau se décideront les nouveaux budgets pour les cohésions, les budgets de cohésion?
Et peut-être je compléterai cette question par un autre aspect, justement sur la négociation qui me semble assez clé dans la négociation qui va s'engager sur le prochain cadre budgétaire. Il va falloir quand même réduire la voilure et forcément la politique de cohésion va en pâtir. Donc, il me semble qu'un des points en débat, c'est tout le problème de la conditionnalité. Et donc je voudrais que vous m'en parliez un petit peu, c'est-à-dire que à quelles conditions et de renforcer les conditions pour l'octroi des fonds. Donc je voudrais que vous passiez un peu l'état de discussion là-dessus. On arrête là.
C'était un peu par rapport à la présentation qui nous a été faite ce matin par la représentation permanente en France, du rôle d'initiative législative de la Commission européenne et son rôle d'expertise, et de ne pas avoir de point de vue sur les apports de l'expertise que vous représentez au trilogue que vous avez présenté ce matin, c'est la discussion, la négociation et la recherche d'entendement entre le Parlement, le Conseil du gouvernement et la Commission européenne.
De bonnes questions, elle n'est pas toujours évidente à répondre. Hein. Je tentais de prendre comment ils se sont présentés. J'ai parlé du fonds de cohésion. C'est un fonds dédié à des investissements transport et environnemental. Dans le domaine de l'environnement, on a quelques directives européennes qui insistent sur un certain usage de l'eau usée, par exemple, fournir de l'eau potable. Et ce genre d'investissements sont ouverts par le fonds de cohésion. Donc le fonds de cohésion a permis une protection de l'environnement grâce à le traitement de l'eau usée, de ménage, et aussi fournir à des millions de personnes de l'eau potable, surtout en Europe de l'Est. Le fonds de cohésion est uniquement pour les pays avec un gross national income per capita de moins de 90%. Donc c'est surtout le pays de l'Est, de la moyenne de l'Union. C'est surtout le pays de l'Est, mais c'était auparavant aussi Portugal, Grèce, Espagne, etc. D'autres projets sont typiquement dans le transport, on parle surtout d'autoroutes, mais aussi investissements ferroviaires, et on commence aussi sur le monde. On fait aussi d'investissements sur l'accès digital, mais ça c'est plutôt avec le FEDER. La question provocatrice, que j'ai bien aimée, c'est difficile d'y répondre clairement. On a été critiqué parfois d'investir surtout dans des régions que les gens quittent. Pourquoi on dépense tellement de l'argent si les gens ne veulent pas y vivre? C'est une bonne question. C'est une question pertinente. En fait, c'est un souci que je partage. Et le fait qu'on parle maintenant des indicateurs de changement démographique pour les allocations reflète un peu ce souci. Car moi, j'ai toujours dit que légère perte de population n'impose pas vraiment de problème pour nos régions, mais par contre, une grande perte ou une grande augmentation de population nécessite quand même certains changements qui nécessitent des investissements. Et je dirais que aussi une région qui gagne beaucoup de population doit investir dans leurs services, dans leur infrastructure, et que ça nécessitera aussi de l'argent public et de l'argent de l'Union. Puis surtout que cette mobilité à l'intérieur de l'Union, elle a grâce à l'Union. C'est uniquement car on garantit cette mobilité que ça peut se faire à ce niveau-là. Et je trouve qu'on devrait être plus conscient de ses conséquences. Pour le reste, je crois que... Ben, si on regarde la migration, on a la carte là-dessus. Cette migration est en partie à cause de l'Union. Cette migration vient souvent. Si on regarde le stock, hein, donc le nombre de personnes qui sont nées à l'étranger, un peu plus d'une moitié sont nées en dehors de l'Union. Mais l'autre moitié est née à l'intérieur de l'Union. Donc toute cette mobilité sera très difficile à organiser sans l'Union. Donc ces gens sont là à cause de l'Union. Et moi, je trouve ça d'une certaine façon logique que les coûts engendrés par ce mouvement pourraient aussi être quelque chose qu'on considère.
Oui, donc, en fait, c'est une manière de plaider pour remettre les fonds structurels plutôt dans les pôles métropolitains, en gros dans les pôles de croissance qui sont des pôles d'attraction, alors que historiquement, les fonds structurels étaient faits pour aider les régions périphériques et pour compenser. C'est quand même un changement de doctrine important.
Ben, c'est un des éléments de notre débat, et le débat est loin d'être clôturé. Il y a tout un débat sur l'agenda urbain pour l'Union. Est-ce qu'on vraiment change d'avis? Je crois que la politique a fait certains investissements qui étaient peut-être trop ambitieux ou trop optimistes. On a parfois investi dans d'infrastructures vraiment surdimensionnées et parfois dans des endroits où leur valeur ajoutée était faible. On était critiqué par le cours de compte de cofinancer trop d'aéroports régionaux, de construire trop d'autoroutes en Espagne et en Portugal. Parfois, ces critiques sont un peu tirées par les cheveux, mais parfois, ils ont raison. Si on paye pour une autoroute et c'est galérisé, il y a une guerre de voiture là-dessus, ben, c'est clair que ce n'était pas un investissement qui a beaucoup aidé la région ni l'Union. Et donc, est-ce que ça va vraiment changer la façon dont on distribue les fonds? Je ne suis pas sûr. Je crois que pour l'instant, il y a un intérêt politique qui est là pour les villes, qui se mobilise, mais qui n'a pas du tout encore su influencer le débat à tel niveau qu'on va vraiment voir un changement d'allocation de fonds. Le problème, c'est aussi qu'on discute à plusieurs niveaux. on veut une certaine distribution de fonds nationaux, puis notre clé d'allocation, c'est plutôt NOTS 2, mais les villes sont plutôt visibles au niveau plus fin, NOTS 3, ou voire commune. Ça reste encore très, très compliqué. Mais je crois qu'on... Ça dépend. Si, par exemple, maintenant, on a aussi le fonds pour le développement rural. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? 90% de ces dépenses restent en fait de l'argent qui est donné aux fermiers. C'est pas vraiment de l'argent qui est dépensé pour l'intérêt de tout le monde dans des zones rurales. C'est encore de l'argent pour les fermiers, mais juste pour faire autre chose. Il y a un 10% qui est dépensé autrement, par exemple, pour avoir du réseau broadband. Au débit. Le réseau au débit aussi dans le milieu rural, que je soutiens tout à fait, c'est une belle part de ça. Mais ça, c'est... qu'est-ce qu'on va faire avec ça? La différence, bien sûr, entre la PAC et la politique de cohésion, c'est la PAC, c'est, un... c'est la compétence unique de l'Union. C'est uniquement nous qui pouvons faire une politique de l'agriculture. Par contre, la politique de cohésion est une. Clairement, une compétence partagée, et dans la moitié du pays, on est un partenaire petit de ce travail. Donc, je crois que ça va encore beaucoup se jouer. Je ne sais pas dans quel sens ça va aller. J'espère que ça va au moins aller dans la direction d'une réduction de nombre de fonds, réduction de règles contradictoires ou pas si suffisamment harmonisées. Si on va arriver à un niveau où il y a vraiment une réflexion, où est-ce qu'on va investir, je ne crois pas. On n'a pas forcément une vision territoriale de l'Union, non plus est-ce que c'est vraiment notre compétence d'avoir une vision telle, c'est plutôt quelque chose pour les États membres. Je crois qu'on va aller dans le sens qu'il y aura un peu plus de flexibilité pour les États membres, pour les régions, de décider où investir, comment on va investir. Non, et j'espère qu'on va aussi finalement pouvoir simplifier un peu notre politique. Puis, même maintenant, on fait une allocation au niveau NOTS 2, mais finalement, c'est aux États même de choisir à l'intérieur de chaque catégorie de région où ils veulent mettre l'argent. On a publié un rapport sur la compétitivité des régions avec un revenu faible, une croissance faible. Là, à nouveau, on remarque que les villes jouent un rôle très important, souvent avec une croissance économique et démographique beaucoup plus élevée du reste de ces régions. Donc, on croit qu'il y a c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Est-ce que ça veut dire qu'on doit dépenser plus encore dans ces villes? Peut-être, ou peut-être pas, car ils réussissent sans nous. Peut-être qu'on doit investir plus ailleurs. Ou peut-être on doit s'investir un temps à créer des liens entre ce pôle d'attractivité et d'activité avec les aventures. Mais je ne sais pas tout à fait comment ça va se développer. Si j'écoute des pays, il y en a encore plein, comme l'Italie par exemple, qui sont convaincus qu'ils savent tout seuls complètement renverser les tendances démographiques. Inner Areas par exemple, en Italie, ils vont repeupler chaque commune qui a perdu de la population. Je, personnellement, je crois ça, c'est une ambition naïve. On ne va jamais pouvoir le faire. Aussi, en Portugal, ça fait des décennies qu'ils tentent d'éviter de perdre la population dans les zones montagnards à côté de l'Espagne. Et ça fait 50 ans que ça ne fonctionne pas. À certains moments, on doit être capable de dire, bah, ok, peut-être ça ne va pas fonctionner. Au lieu de continuer à gaspiller de l'argent. D'abord, ça, ce sont plutôt mes opinions personnelles au lieu de celles de la Commission. Pour continuer sur les autres questions, le calendrier pour l'après 2020, le calendrier officiel, c'est on publiera notre proposition pour le MFF, Multi-Annual Financial Framework, fin 2017. On ira. On ne va pas faire ça. J'espère que ça sera publié avant deuxième moitié 2018, donc l'année prochaine. Et j'espère, et ça dépend énormément de négociations avec le Premier ministre, si ça ne se fera pas. notre politique, on sera prêt pour publier la proposition pour le règlement 6 mois après, sur ce modo, donc début 2019, probablement. Le débat sera sans doute qu'on va dans une direction de simplification, de plus d'harmonisation, moins de fonds, moins de programmes, moins de contraintes, comment il faut le dépenser. Ça, ce sont les grandes lignes. Les conditions, comment est-ce qu'on va traiter cela? Je crois qu'on va continuer. Je ne vois pas l'intérêt à les abandonner. Je crois que maintenant, avec l'expérience qu'on a, ce sera clair que certaines conditions ne fonctionnent pas vraiment ou ne sont pas très utiles. Il y en a d'autres qu'on peut améliorer ou affiner. Mais c'est fort probable qu'on va continuer à travailler avec ces mêmes conditions. Et tout à fait possible qu'on ajoute aussi des conditions plutôt dans le domaine du réforme structurelle, car on voit quand même clairement que l'impact de notre politique dépend énormément de réforme structurelle pour avoir un impact. Si on investit énormément dans la recherche, l'innovation, le soutien de PME, mais l'environnement pour les entreprises est très compliqué, cher et lent, on ne va pas avoir le même impact. Même sur le marché du travail, si on tente de stimuler la création d'emplois, mais si le marché du travail est verrouillé, très complexe, très cher, ça va avoir un impact beaucoup plus faible. Donc, peut-être ça sera le cas, on verra un lien encore plus étroit entre nos fonds et le demande pour des réformes structurelles. C'est aussi possible que dans le domaine de gouvernance, on va investiguer si on peut travailler là encore plus. J'ai donné l'exemple de doing business. C'est un des moyens qu'on tente de vérifier si la capacité administrative est suffisamment élevée pour faciliter la croissance économique des entreprises. Sans doute, on va continuer aussi dans le domaine de justice, peut-être pas forcément avec nos fonds, mais ça restera aussi l'intérêt de la Commission. Puis, pour clôturer sur le rôle de la Commission, le grand avantage de la Commission, c'est qu'on a le droit à l'initiative. Donc, on peut proposer quelque chose. Et dès qu'on propose quelque chose, ça crée un certain point de référence. Cela ne veut pas dire que ça va être accepté, mais c'est très difficile de recommencer à zéro. Et c'est notre rôle en tant qu'expert qui est utile pour préparer une position qui sera utile, défendable et qu'on peut négocier un compromis. Sachant qu'on ne va pas proposer quelque chose que l'on sait, le Conseil, le Parlement ne va pas accepter du tout. Donc notre rôle, c'est l'initiative et savoir ou tenter de proposer quelque chose qu'on peut négocier. Donc même dans nos propositions, on le fait sachant les contraintes, le fil rouge, le red line, c'est pas le fil rouge. La ligne rouge. Merci. La ligne rouge de différents partenaires, et avant qu'on fasse notre proposition, bien sûr, on parle avec beaucoup de personnes en huis clos souvent pour juste comprendre un peu mieux ce qu'ils sont prêts à accepter publiquement, un peu moins publiquement, etc. Donc, c'est ça un peu notre rôle.
Je crois que la question aussi, c'était celle de pas seulement du pouvoir d'initiative, mais je crois de la nature de votre expertise. Et notamment, on voit à travers les slides que vous avez montrés que vous êtes un énorme producteur de benchmark et que vous diffusez cette culture du benchmark au niveau local aussi. Donc, ça, voilà, quel type de fait vous en assemblez.
Dans mon rôle, je produis énormément des indicateurs et benchmarks. Je suis aussi associé au Regional Competitiveness Index, au Social Progress Index et au Quality of Government Index. Donc il y a plein d'éléments. Et finalement, je crois que le rôle de la Commission est beaucoup plus important dans le domaine qui est moins contraignant, qui peut inspirer à l'action au lieu juste dans le domaine de directives et règlements. Et avec ce genre de benchmark, j'espère de créer un débat sur ces différences, si ces différences sont pertinentes, vraies, problématiques, à résoudre ou pas. Pour moi, un bon exemple de cela, c'était la carte sur la mortalité d'enfants. J'avais demandé de créer ces indicateurs à Eurostat. Ils disent oh, c'est pas intéressant, c'est tout la même chose à l'intérieur de chaque pays. Puis ils ont vu les résultats, ils m'ont dit oh, quand même, ça peut être intéressant. Aussi la carte sur l'espérance de vie, ça engendre des questions. On voit que le nord de Royaume-Uni a une espérance de vie assez faible. Qu'est-ce qui se passe à cause de leur revenu? Donc, toutes ces cartes invitent à une investigation plus profonde dans certains enjeux et invitent toutes les autorités, nationales, régionales, locales, de voir comment leurs actions ont un impact sur ce genre de disparités. L'union tout seul ne va jamais résoudre tout seul. Et donc, pour moi, je crois que ce travail de comparaison est très, très motivant à ce niveau. Car finalement, c'est ça l'avantage d'être à l'intérieur de l'Union. Si tu es en Slovénie, tu as une autre région pour te comparer avec. Ce n'est pas grand-chose. Si tu es Luxembourg-Ville, il n'y a pas d'autre ville à Luxembourg pour se comparer. Si tu veux apprendre quelque chose en se comparant, il faut aller au-delà de frontières. Et c'est ça mon point.
Francesco, peut-être.
Très rapidement, parce que je trouve que là, bien. On est balayé les terrains, donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de matériel qui nous a été donné. Je pense qu'il y a deux choses qui me viennent à l'esprit quand vous écoutez la première. Moi, je suis macroéconomiste, donc voilà, j'ai une perspective complètement différente.
Et
italien. Mais pas des salaires. Mais je ne vais pas des salaires. Et je trouve que beaucoup les politiques qu'on met en place au niveau européen et après au niveau national doivent faire compte avec cette diversité énorme dont on savait très bien qu'elle existe par ailleurs. Et il y a deux choses qui me... Bah, déjà, il y avait une question que j'avais posée, du coup, je la pose en profitant du fait que j'ai fait cette espèce de petite conclusion. Il faudrait faire, je ne sais pas s'ils existent, mais il faudrait faire des études parce que vous avez beaucoup parlé de villes minières rurales et des choix que vous devez faire sur où mettre l'argent, et si, pour vous, mais aussi pour les États. Et du coup, est-ce qu'une grande ville comme Paris, comme Londres, ou même Milan en Italie, pour parler d'un pays, qui a un pôle de croissance et d'attractivité, est-ce qu'elle entraîne avec elle les territoires qui s'entourent? Et ça, est-ce qu'on l'a étudié et où mettre l'argent pour aussi de ça? Parce que ce que vous dites, c'est que ça me vous disait, est très important, c'est s'il y a un changement, les fonds de cohésion sont des fonds de cohésion, donc c'est des fonds qui sont faits pour éliminer l'hétérogénéité. Si on change un pays et les fonds de cohésion deviennent des fonds de croissance, donc on les met où ça porte plus de croissance, du coup, la question, est-ce qu'on abandonne complètement les territoires ou est-ce qu'en mettant l'argent à Milan ou à Paris, on amène l'Auvergne et le Veneto. Tout ça, c'est des questions qui sont très importantes. Je ne sais pas si vous êtes en train de les étudier ou s'il y a des universitaires qui les forment, mais ça devient le centre de la question. Ce n'est pas une question pour vous, c'est une remarque. Je ne veux pas vous mettre en difficulté après si vous avez. Et donc, ça, c'était la première chose qui m'avait interpellé. Et la deuxième, oui, je suis d'accord, ça s'est fait. La richesse de données que vous produisez, il faudrait la publier. Un peu plus de publicité, je pense. Ça fait très intéressant. Mais surtout, est-ce qu'on est en train de changer des natures? Vous suggérez que vous ne le savez pas encore trop. Et est-ce que ça nécessite d'investiguer mieux quelles sont les relations entre les territoires dans les pays?
Et surtout entre les territoires et les villes, pardon.
Peut-être juste une petite réaction là-dessus sur. Et merci pour le compliment. Je tente mon mieux de faire la pub, mais c'est pas évident. On a fait des études aussi ensemble avec l'OCDE sur l'impact des villes aux alentours. Et on a fait la distinction entre les régions qui sont proches d'une ville et des régions qui sont loin d'une ville. Et là, on remarque quand même clairement que les régions rurales, qui sont proches d'une ville, ont une dynamique économique et démographique très différente. Et en principe, ils sont plus productifs, ils ont une croissance plus élevée, ils ont une croissance démographique plutôt positive. Donc on voit quand même qu'il y a une sphère d'influence de ces villes qui dépasse clairement leurs frontières et qui peuvent avoir un impact positif sur, sur ces zones-là. Où est-ce que je crois qu'on va aller? Je sens quand même un intérêt d'avoir une discussion moins ciblée sur l'économie au niveau régional et local. Finalement, ce que je crois que nos fonds peuvent faire, c'est améliorer la qualité de vie partout, et surtout là où c'est nécessaire de le faire. Je ne suis pas sûr qu'on sait, ni avec notre fonds, et non plus avec le Fonds national, complètement changer une tendance spatiale économique comme ça. Si on voit qu'on va vers une économie de connaissance, ça a un impact spatial. Si on voit que l'économie agricole change, ça a un impact spatial. Et cet impact spatial, on ne sait pas le changer. Donc, je vois un intérêt à être moins ambitieux et plus ciblé sur les éléments qui sont sous notre contrôle, accès aux services, santé, éducation, etc., réseau d'eau de débit, sans avoir l'ambition de tenter d'obtenir une productivité comme celle de Paris, de Madrid, de Londres, partout. Par ça, on n'aura jamais. Donc, est-ce que c'est un changement fondamental de notre politique? Je dirais non. Peut-être c'est plutôt un changement de comment on présente notre politique. Pour l'instant, on présente notre politique qui va résoudre toutes les disparités de PIB par habitant. Et en fait, c'est un peu con. Car en fait, plein de nos investissements n'ont aucun impact sur le PIB par habitant. Si on fournisse de l'eau potable, est-ce que ça change le PIB? Bien sûr. Si on traite l'eau usée, est-ce que ça change le PIB? Bien non. C'est utile, c'est bon pour l'environnement, mais pas pour le PIB le lendemain. Donc, si on présente...
Pour l'espérance de vie. L'espérance de vie, quand même.
Oui. Mais est-ce qu'on distribue nos fonds sur base de l'espérance de vie? Non. Est-ce qu'on dit que c'est notre ambition de réduire les écarts de l'espérance de vie? Pas forcément. Donc, je trouve que c'est une meilleure idée de cibler mieux ce qu'on veut obtenir. Quels sont les vrais objectifs de notre politique? Et ce n'est pas forcément une réduction de disparité en termes de productivité, mais plutôt une réduction de disparité au niveau de qualité de vie. Et ça, je crois qu'on peut défendre notre politique mieux et avoir aussi une vision plus claire sur ce qu'on doit faire et ce qu'on est sur notre impact.
Merci.